VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, 11h en temps universel. Au Bénin, Sébastien Ajavon est toujours gardé à la brigade territoriale de Cotonou. L'homme d'affaires béninois est en garde à vue depuis 5 jours après la découverte de 18 kg de drogue dans l'un des conteneurs de sa société au port autonome de Cotonou. Ce vendredi, Sébastien Ajavon devrait soit être mis en liberté ou déféré. Rachidi Gbadamassi, député, ami et allié de Sébastien Ajavon, invite le chef de l'État béninois à ne pas se laisser prendre au piège tendu.
Il y a absolument une main invisible qui tire la ficelle. Cette main invisible agit pour opposer et faire rivaliser deux puissances économiques. J'ai la ferme conviction que le président Patrice Talon ne peut jamais détruire Sébastien Ajavon. Ça, c'est clair. De même, j'ai la ferme conviction que M. Sébastien Ajavon ne peut jamais être impliqué dans une affaire de drogue.
Interdiction de manifestations à caractère politique jusqu'à nouvel ordre en RDC. C'est dans ce contexte qu'une délégation du Conseil de sécurité est attendue dans le pays le 10 novembre pour tenter de faire baisser la tension. Moulegua Ziyindoula, le président du Centre d'études politiques et stratégiques et ancien porte-parole du président Joseph Kabila en visite à Washington, pense que les ambassadeurs du Conseil de sécurité enfoncent une porte ouverte. Le chef de l'État congolais ne va pas briguer un troisième mandat, selon lui.
Non, mais le président de la République s'est déjà exprimé clairement à plusieurs fois en disant qu'il va respecter la Constitution et cela est le cas. Si vous parlez aujourd'hui de l'impossibilité d'organiser les élections dans les délais constitutionnels, c'est la raison pour laquelle un dialogue politique inclusif souhaité par toutes les parties a été convoqué par la facilitation internationale conformément à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, même les membres du Rassemblement souhaitaient un dialogue et le président de la République a convoqué un dialogue conformément à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Moulegua Ziyindoula, ancien porte-parole du président Joseph Kabila. Au Tchad, les étudiants n'ont toujours pas repris le chemin des universités. 2 mois après la date officielle de la rentrée, les enseignants sont en grève lancée par la plateforme de revendication nationale. Guirao Jérémy, président du syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur, membre de la plateforme, fait des propositions.
Si les choses rentrent dans l'ordre avant le 15 novembre, je pense qu'au niveau secondaire, on peut décaler les examens et essayer de rattraper l'année scolaire 2016-2017. Mais au niveau du supérieur, ça serait un peu difficile. Est-ce qu'il y aura lieu d'étudier l'autre année qui n'est pas finie dans celle qui vient de commencer? Ou bien est-ce qu'il faudrait déclarer cette année blanche et repartir sur les nouvelles bases? Ça, c'est une réflexion qu'on est en train de faire. Pour mettre fin à cette crise, il faudrait que les Tchadiens s'assiedent. Ils analysent la situation et ils trouvent des solutions.
Monsieur Guirao Jérémy, président du syndicat national des enseignants et chercheurs du Tchad.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Direction le Cameroun, les travailleurs de la China First Highway Engineering Company sont en grève. L'entreprise est en charge de la construction de l'autoroute reliant la capitale économique Douala et la capitale politique Yaoundé. Ses employés l'accusent de mauvais traitements et de non-respect de leurs conditions de travail. Reportage Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé.
Ils sont près de 200 travailleurs de la China First Highway Engineering Company qui ont décidé d'abandonner la construction de cette autoroute en pointant un droit accusateur sur leurs employeurs qu'ils accusent de mauvaise gestion du personnel, de non-paiement des salaires et de non-respect des termes du contrat. Certains d'entre eux expriment leur mécontentement.
Il ne peut pas se faire qu'on t'embauche comme manœuvre. Tu pars au chantier, tu es ferrailleur, tu es coffreur, tu es maçon, tu es électricien, tu es tout. Alors qu'on te donne un C comme catégorie.
Moi, je revendique qu'on nous amende le salaire. Tu viens avoir un papier qui explique que tu es un technicien. Mais le papier, on ne reste pas au papier. On travaille 10 heures, on coupe les heures même. Et si tu manques le dimanche ici, ça commence le problème. Les jours fériés ici, c'est obligatoire.
D'autres, par ailleurs, réclament la nomination d'un Camerounais à la direction des ressources humaines.
Nous réclamons un directeur des ressources humaines camerounais, la mise en application du code du travail camerounais et de la législation camerounaise, la mise en œuvre et la mise en application de la convention collective en intégrale.
Il y a les catégories 21, les catégories 30. C'est des choses qui n'existent pas. Les heures sont mal calculées. Les heures supplémentaires ne sont pas respectées.
Malgré les négociations avec les autorités publiques, ces derniers maintiennent leur décision de ne pas retourner au travail tant que leurs réclamations n'auront pas reçu de suite favorable. Un avis que soutient Jean-Marie Zambo Amougou, président de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun.
En réalité, les normes internationales du travail ratifiées par le Cameroun ne sont pas respectées. La législation nationale en matière du travail n'est pas respectée. Les problèmes de protection sociale, c'est-à-dire l'affiliation à la CNPS, n'est pas respectée. Les cotisations sociales ne sont pas reversées à la CNPS.
Suite à l'inertie des responsables de la China First Highway Engineering Company, ceux-ci n'ont pas pu trouver le sommeil cette nuit, car réveillés par les bruits de tam-tam que tapaient les grévistes. Ces derniers, par la suite, auront pris la fuite du camp où ils se trouvaient. Rappelons que cet incident visant une entreprise chinoise n'est pas le premier du genre. Elle a déjà subi le même traitement sur plusieurs chantiers à l'est du pays. Moki, Edwin Kinzeka, pour VOA Afrique, Yaoundé.
Un tribunal du nord du Nigeria a ordonné la libération de 5 musulmans accusés d'avoir tué une chrétienne de 74 ans à laquelle ils reprochaient d'avoir blasphémé le prophète Mahomet. La victime appartenait à l'ethnie Igbo du sud-est du Nigeria et était mariée à un pasteur. Elle avait été battue à mort et son meurtre avait provoqué l'indignation. Le président Muhammadu Buhari avait qualifié ce meurtre de totalement condamnable. Le Kenya a accusé l'ONU jeudi d'avoir cédé à la pression de certains pays pour rejeter la responsabilité des lacunes des casques bleus au Soudan du Sud sur leur commandant. L'enquête de l'ONU a été menée avec un a priori et le général Johnson Ondieki a servi de bouc émissaire, selon Macaria Kamau, ambassadeur kenyan à l'ONU. Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a défendu la décision de Ban Ki-moon, soulignant qu'elle ne visait pas le Kenya, mais seulement le commandant de la force de l'ONU. L'accord de Paris sur le climat conclu lors de la COP21 en décembre 2015 à Paris est entré en vigueur ce vendredi, qualifié de jour historique pour la planète par les autorités françaises. L'accord de Paris vise à contenir bien en dessous de 2 degrés Celsius la hausse des températures moyennes mondiales par rapport à la moyenne de l'ère pré-industrielle. Les États ont convenu en outre de poursuivre les efforts pour contenir la hausse à 1,5 degré. Les Nations Unies ont déclaré jeudi que les émissions de gaz à effet de serre en 2030 devraient dépasser de 12 à 14 milliards de tonnes, ce qui devrait être leur volume pour pouvoir contenir le réchauffement global dans les limites fixées par l'accord de Paris.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les unités spéciales irakiennes du service de contre-terrorisme ont repris 6 districts de l'est de Mossoul, a annoncé l'armée dans un communiqué diffusé aujourd'hui. L'armée qui précise qu'il s'agit des quartiers de Malayin, Sama, Kadra, Karkoukli, Kouds et Karama ajoute que les forces d'élite ont infligé de lourdes pertes aux djihadistes de l'organisation État islamique. L'opération de reconquête de Mossoul, la grande ville du nord de l'Irak aux mains de l'État islamique depuis juin 2014, a été déclenchée le 17 octobre. Une nouvelle pause humanitaire de 10 heures décrétée par la Russie, alliée du régime syrien, est entrée en vigueur aujourd'hui, ce matin donc dans la métropole divisée d'Alep, une initiative qui risque de s'avérer infructueuse après l'échec d'une première trêve similaire, une première trêve humanitaire unilatérale de 3 jours mise en place à Alep par les armées russes et syriennes qui prévoyaient l'arrêt de tous les tirs dans la ville a expiré le 22 octobre sans avoir permis l'évacuation des civils et de blessés ni le retrait de combattants des quartiers est d'Alep aux mains de la rébellion. Et puis un attentat à la voiture piégée a frappé aujourd'hui le centre de Diyarbakir, la grande ville du sud-est de la Turquie. L'attaque a fait un mort et au moins 30 blessés. Les autorités locales l'ont imputé aux séparatistes kurdes du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. L'explosion s'est produite près d'un commissariat de police où sont gardés à vue plusieurs parlementaires appartenant au HDP, le parti d'opposition pro-kurde, au lendemain de leur arrestation. Merci de nous avoir suivis. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, ce sera avec Henri Francisque dans exactement 50 minutes. Merci encore pour votre fidélité à La Voix de l'Amérique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.